Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Et oui, nous sommes de retour en ce 4 janvier 2017 pour les Paractualités avec aujourd'hui une entrevue. Nous en apprendrons un petit peu plus sur la leucodystrophie. Et puis il y aura des sujets divers comme toujours, comme par exemple, c'est la journée du braille, aujourd'hui la journée mondiale du braille, ce qui touchera notre portefeuille, c'est-à-dire ce qui sera un petit peu plus cher, ce qui sera un petit peu moins cher. Également, nous parlerons de cette bambine d'Edmonton qui a troqué son mini fauteuil roulant pour une nouvelle attelle. Ça lui a redonné le sourire. On parlera de ses parents qui, eux, ont un peu moins le sourire. Ils sont les heureux parents de deux jumelles, mais les deux petites jumelles sont atteintes de paralysie cérébrale et ils ont besoin de votre aide, de notre aide. C'est pour ça qu'on en parle ici sur les ondes de Canal M. Également, nous parlerons d'un petit bonhomme sur quatre pattes, aux grands yeux scintillants, au rire contagieux, mais malheureusement, ce sourire cache une maladie infantile très rare. Alors c'est la journée mondiale du braille. Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclarée journée mondiale du braille en 2001. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile. Braille, qui n'est pas né aveugle, mais qui l'est devenu très jeune suite à un accident, améliore un système d'écriture déjà mis en place par Charles Barbier appelé sonographie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l'orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques. Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique, construit uniquement à partir de deux rangées de trois points, permettant 64 combinaisons comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation et les caractères musicaux. Alors, est-ce que nous aurons un peu plus d'argent dans nos poches ou un petit peu moins en 2017? Eh bien, comme chaque année, l'arrivée du 1er janvier rime avec hausse de tarifs dans plusieurs secteurs de l'économie canadienne et québécoise, mais 2017 comporte aussi quelques bonnes nouvelles. Voici un très léger tour d'horizon. Il y aura des augmentations, malheureusement, avec le prix des aliments de 3 à 5 % quoique la hausse du prix des aliments devrait surtout être ressentie en Ontario et en Colombie-Britannique, et cela va toucher le prix des fruits, des légumes, des poissons et des viandes. Les tarifs d'électricité seront plus élevés partout au pays et notamment au Québec. Hydro-Québec a demandé à la Régie de l'énergie le droit d'indexer ses prix en fonction de l'inflation. Selon la Société d'État, cette hausse de 1,6% qui entrera en vigueur le 1er avril devrait se traduire par une augmentation annuelle de à peu près 43 sous par logement, 2,36 $ pour une petite maison et 5,11 $ pour une grande maison. Le permis de conduire aussi, québécois, et ses frais d'immatriculation vont en prendre pour leur rhume. L'impôt foncier, la plupart des grandes municipalités québécoises ont décrété de légères augmentations de l'impôt foncier pour l'année qui vient, notamment au Saguenay, à Gatineau, à Lévis, à Sherbrooke, à Montréal, à Laval, à Trois-Rivières et à Longueuil, et à l'inverse, les résidents de Québec profiteront d'un gel pour 2017 et 2018. Les frais de garderie, eh bien, les garderies à 7 $ sont bel et bien chose du passé. Depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux à Québec, les frais de garde minimum, qui avaient été fixés à 7,55 $ pour 2016, passent à 7,75 $. Mais il y a aussi des gels de tarifs, comme par exemple les tarifs de la STM, après plusieurs augmentations successives. Ces dernières années, la Société de transport de Montréal a décidé de ne pas augmenter ses tarifs au 1er janvier 2017, contrairement à l'Agence métropolitaine de transport qui a édicté une hausse de 2%. Les résidents de Toronto, de Vancouver devront se résigner à payer plus cher toutefois, de même que ceux d'Ottawa, de Gatineau et de Longueuil, en moyenne 2%. Et puis, le soutien aux familles. Eh bien, les familles du Québec qui reçoivent le soutien aux enfants verront leur versement augmenter de 0,74%. Pour un couple avec deux enfants, par exemple, le montant maximum passera à 3 614 $. Le montant varie en fonction du revenu familial, de la situation conjugale et du nombre d'enfants à charge. Et précisons, pour finir, que le supplément pour enfants handicapés augmentera également de 1 $ par mois pour atteindre 190 $. Et puis, une famille a bien besoin de nous, mes amis, en ce début d'année 2017. Une famille parmi tant d'autres, remarquez bien. La famille de jumelles atteintes de paralysie cérébrale demande de l'aide. Émilie Bergeron de la presse canadienne nous fait part de cette nouvelle. Aidée au quotidien par sa petite cocotte de 5 ans, donc sa fille aînée de 5 ans, au moral inébranlable qui lui apporte son soutien, Anne Cyr garde espoir que ses jumelles de 2 ans, Léane et Camille, pourront éventuellement mieux effectuer leurs déplacements quand elles seront plus vieilles. Nées prématurément à la 30e semaine, les deux fillettes sont atteintes de paralysie cérébrale, un trouble causé par des lésions aux cellules du cerveau qui entravent la motricité et le tonus musculaire de ceux qui en souffrent. Avec l'initiative de deux amis qui ont lancé une campagne de sociofinancement à la fin novembre, Mme Cyr et son conjoint espèrent pouvoir récolter suffisamment d'argent pour pouvoir réaménager et agrandir leur maison de Saint-Amable pour faciliter le quotidien de leurs jumelles. La famille devrait se voir accorder un soutien financier d'environ 39 000 $ de la part du gouvernement du Québec en vertu du programme d'adaptation de domicile pour... Donc, la famille devrait se voir accorder un soutien financier d'environ 39 000 $ de la part du gouvernement du Québec en vertu du programme d'adaptation de domicile pour personnes handicapées. Le père des jumelles, qui travaille dans le milieu de la construction comme menuisier-charpentier, estime toutefois qu'il en coûtera au moins 80 000 $ seulement pour les agrandissements et aménagements de base. Chaque jumelle est affectée différemment par la paralysie cérébrale. Chez Léane, les symptômes se manifestent surtout dans le bas du corps, mais pour ce qui est du langage et de la motricité, elle suit son âge. Camille est plus durement touchée. Elle ne respirait pas à la naissance et sa motricité est aujourd'hui plus affectée. Elle ne s'assoit pas encore, elle ne rampe presque pas, précise sa maman. Madame Cyr, donc la mère, affirme s'être entretenue par le biais d'une plateforme de clavardage avec une femme qui a réussi à se procurer une chambre hyperbare pour son enfant de 18 mois grâce à une collecte de fonds fructueuse. Celle-ci a remarqué une réelle différence les quelques fois où son bébé en a jusqu'à maintenant bénéficié. Le couple souhaite par ailleurs aménager une chambre pour Camille au rez-de-chaussée de leur résidence ainsi qu'une salle de bain adaptée. Pour l'instant, elle a 2 ans, elle pèse 20 livres, alors c'est facile pour nous de la transporter, mais on voit l'avenir différemment. On ne pourra pas toujours la lever pour la porter à sa chambre, expose la maman. Un appareil élévateur pour accéder à l'entrée de la maison est également envisagé. Les efforts déployés sur la plateforme web de sociofinancement GoFundMe n'ont permis de récolter que quelques milliers de dollars jusqu'à présent. Alors, permettez-nous ici, sur les ondes de Canal M, de vous redonner ce site-là parce que cette famille a vraiment besoin de nous. Donc, au GoFundMe. Alors, GoFundMe.com/ Camille et Léane. Si vous êtes comme moi, vous ignorez peut-être un petit peu trop ce qu'est la leucodystrophie et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir au bout du fil Marjolaine Verville de la Fondation Leucodystrophie qui va tout nous dire sur cette maladie. Bonjour Madame Verville.
Bonjour.
Alors bonne année d'abord à vous.
À vous aussi.
Alors, c'est vrai qu'on est certainement assez nombreux à ignorer ce qu'est la leucodystrophie. Pourriez-vous nous en parler un peu plus, Mme Verville?
Oui, c'est une maladie qui touche les enfants. Puis, je pense que la comparaison la plus facile qu'on peut faire, c'est avec la sclérose en plaques.
Ah, OK.
C'est une maladie qui affecte la myéline dans le cerveau, comme la sclérose en plaques chez l'adulte. Mmh. Puis, si vous avez déjà vu des gens qui souffrent de sclérose en plaques, là, quand on regarde, bon, la personne a de la difficulté à marcher, elle se met à marcher de façon de plus en plus incoordonnée, oui. Si bien qu'un jour, elle doit être en fauteuil roulant, tout ça. Donc, c'est la même chose, c'est la même évolution chez les enfants que la sclérose en plaques. Ça se ressemble beaucoup en termes de symptômes.
Est-ce que vous êtes en train...
C'est pas la même... Pardon?
Non, excusez-moi, c'est moi, je vous interrompis. Je pensais que vous aviez fini votre phrase,
oui.
Pardon.
Oui, ben en fait, ce que je voulais dire, c'est que la différence, c'est que la sclérose en plaques, l'origine de la maladie, c'est une maladie auto-immune, tandis que la leucodystrophie, ben c'est un gène défectueux dans la majorité des formes de leucodystrophie. Donc, c'est pas la même cause la maladie, mais en termes de clinique, là, ça se ressemble quand même beaucoup.
Beaucoup. Mm. Mais donc, ce que vous me dites, c'est que ça ne pourrait pas toucher un adulte.
Il y a des formes de leucodystrophie qui touchent des adultes, mais c'est très rare.
C'est très rare.
La plupart du temps, ça touche les enfants à bas âge. C'est une maladie qui est grave parce qu'elle est dégénérative, donc les symptômes augmentent toujours. Parce que la myéline, dans le fond, dans le cerveau, c'est ce qui sert d'isolant pour chaque neurone. C'est un petit peu comme autour d'un fil électrique, il y a des isolants.
Oui,
c'est ce qui
oui.
permet à chaque neurone de faire une bonne connexion.
Mm-hmm.
Et comme il manque de myéline dans le cerveau des enfants, ben les connexions se font plus lentement, puis ça dégénère toujours, donc il y en a de moins en moins. Donc, c'est pour ça que la maladie, elle évolue beaucoup. Là, quand les enfants perdent la marche, ils peuvent venir perdre l'usage de la parole parce que les muscles, la commande dans le cerveau qui envoie l'information aux muscles qui permettent de l'élocution, ça s'entend plus difficilement. Fait qu'ils ont plus de difficultés à parler. À un moment donné, c'est à avaler. Fait qu'ils peuvent pas être nourris par la bouche. Fait que c'est une maladie qui est vraiment grave. Dans les formes les plus graves, l'enfant décède en bas âge, un an, deux ans, trois ans, quatre ans.
Et sinon, quelle est l'espérance de vie, alors?
Ben, dans les formes les moins graves, il y en a qui se rendent jusqu'à 30 ou 40 ans. C'est beaucoup plus rare. D'autres formes, le décès survient dans l'enfance. Dans d'autres formes, c'est dans l'adolescence, là, parce qu'il y a plusieurs formes de leucodystrophie. Mais elles sont toutes dégénératives et toutes très graves.
Et quelle est la mission, alors, de votre fondation, Mme Verville?
Ben, nous, on a un enfant qui souffre de cette maladie-là.
Ah, d'accord.
En 2006, on a mis, ça fait 10 ans, presque 11 ans, qu'on a mis la fondation sur pied.
Okay.
Puis notre objectif, c'est de financer la recherche de traitement parce qu'il n'y avait aucune recherche qui se faisait au Québec à ce moment-là, il y a 10 ans. Il y avait de la recherche en Europe, aux États-Unis, mais au Québec, il n'y en avait pas. Alors, on s'est dit, il faudrait qu'il y ait de la recherche sur des sujets québécois puis qu'il y ait des recherches aussi sur les formes inconnues parce qu'il y avait environ 50% des leucodystrophies qui étaient de formes inconnues, dont notre fils était dans ce 50%-là. Puis, on s'est mis à financer la recherche puis on a trouvé des nouveaux gènes puis il y a beaucoup moins de formes inconnues qu'il y en avait.
Oh.
On est rendu à environ 30%. Fait qu'il y a de la recherche au Québec. Ça a énormément avancé.
Grâce à votre fondation.
Oui. Ça fait
Bravo.
En sorte que maintenant, il y a un centre spécialisé sur les leucodystrophies à Montréal. On a réussi à avoir Luc Langevin comme porte-parole en 2012.
Oui.
Donc, ça a énormément évolué, la fondation. Donc, notre mission principale, là, c'est de financer la recherche. Puis, on a aussi la mission de soutenir les familles d'un point de vue psychologique. Donc, les familles qui ont besoin de rencontrer un travailleur, une travailleuse sociale, qui ont besoin de rencontrer d'autres familles, qui ont besoin d'avoir de l'information. Mm-hmm. Donc, on organise des colloques pour les familles où ils peuvent rencontrer des chercheurs, avoir de l'information sur leur leucodystrophie, où est-ce qu'en est la recherche. Pendant ces fins de semaine-là, il y a des rencontres de groupe, des rencontres individuelles. Et toute l'année, ils peuvent avoir ces services-là, soit rencontrer d'autres parents, rencontrer des psychologues ou des travailleurs sociaux. Là.
Justement, quelles seraient vos prochaines activités, Mme Verville?
On vient juste d'avoir une activité de financement là. La prochaine sera probablement à la fin 2017 ou début 2018.
D'accord.
On est en train d'organiser. Mais on ramasse des dons toute l'année parce que les recherches avancent. On finance plusieurs projets de recherche là, en parallèle parce que quand on a trouvé des gènes pendant ces années-là, c'était intéressant d'avoir des nouveaux gènes, d'expliquer des nouvelles formes.
Bien sûr.
Dont la forme de mon fils, qui était parmi les quatre nouvelles formes qu'on a trouvées, qui était avant ça, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait maintenant, grâce à toutes ces années d'efforts, on sait c'est quoi la forme qu'il y a, mais c'est juste un premier pas, parce que trouver un gène, mais l'objectif, c'est que ça développe vers un traitement.
Bien sûr.
Puis c'est pour ça que présentement, on a besoin d'argent pour financer le projet qui est le plus prometteur. C'est le projet avec Dr Geneviève Bernard à Montréal.
Mm-hmm.
Elle veut faire de la transplantation de cellules souches pour faire de la correction génétique à la source, pour faire en sorte que les enfants, là, de corriger les cellules qui sont malades, si on veut.
Oui, oui.
Et c'est ce qui est le plus prometteur pour l'instant dans tous les projets qu'on finance. Celui-là nous donne beaucoup d'espoir là, que d'ici quelques années, là, on puisse faire cette correction-là parce que ça a déjà été fait pour une forme de leucodystrophie en particulier, puis avec des résultats intéressants.
Bon.
Et qu'on veut l'étendre à d'autres formes.
Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider?
Oui,
c'est sûr.
Sur notre site, c'est www.leucofondation.com. Donc, ça s'appelle Leucodystrophie, puis le site, c'est leucofondation.com.
Bon.
Puis, les gens peuvent donner via le site.
Bon, ben, écoutez, c'est évidemment une information que nous allons relayer sur notre propre site Internet. Je vous en prie, sous l'onglet Nouvelles, hein, je le précise.
D'accord.
Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient nous aider. Une question, comment il va, votre petit bonhomme?
Ben, il va bien. Maintenant, il y a 17 ans. Il a été diagnostiqué.
Il a 17 ans?
Oui, il a été diagnostiqué quand il avait 3 ans. Puis, ben, il va bien, c'est
oui,
relatif.
C'est relatif. Donc,
c'est sûr qu'il a perdu énormément de capacité. Maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est bouger un peu la tête, les yeux, un petit peu les bras, mais il a vraiment tout perdu. Alors que quand on a eu le diagnostic, quand il avait 3 ans, il marchait puis il courait. Fait que progressivement, il a un petit peu tout perdu ses capacités. Mais ce qui est bien dans son cas, c'est qu'il ne souffre pas physiquement. Physiquement, il a pas mal, il a toute sa tête. Il est heureux, il a de l'espoir par rapport à cette recherche-là aussi, puis nous aussi, puis on prend la vie au jour le jour.
Ben, et bravo, Madame Verville, d'avoir mis ça sur pied, parce que c'est tellement pour votre gamin, mais aussi pour tous les parents, pour tous les enfants qui sont atteints. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
De rien.
À votre émission.
Et puis, ben, de rien. Et puis, écoutez, une bonne année. Et puis, on ne lâche pas, alors, pour la leucodystrophie.
Oui, à vous aussi. On va se souhaiter que ça avance le plus vite possible.
Oui, d'accord. Passez une belle journée en attendant. Ce sera déjà pas mal. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Oh, c'est terrible, hein, ces maladies qui touchent à nos petits-enfants comme ça et qui touchent toute leur famille. Par exemple, Catherine Lamontagne nous parle du petit Anthony Côté. Il a 3 ans, il est atteint du syndrome d'Angelman, on va dire d'Angelman. Ça s'écrit A-N-G-E-L-M-A-N. C'est un petit bonhomme sur 4 pattes qui a des grands yeux scintillants, qui a un rire contagieux, qui se déplace énergiquement dans la pièce. C'est difficile de se douter que derrière cette joie débordante qui envahit ce jeune Anthony Côté se cache le syndrome peu connu d'Angelman, la maladie orpheline caractérisée par une déficience intellectuelle sévère. Il a fallu plus d'un an pour que Jean-Philippe Côté et Valérie Gagnon obtiennent une explication au retard de développement que présentait leur petit. Du haut de ses 3 ans, Anthony Côté est l'enfant sur 15 000 atteint de ce syndrome. Notre vie venait de changer. On savait qu'Anthony n'allait jamais être comme tout le monde, se souvient son père. La famille de Beauport n'avait jamais entendu parler de cette maladie. Elle a appris sur le sujet au même rythme qu'Anthony grandissait. Lourdement handicapé intellectuellement, le petit fait des crises d'épilepsie. Il éprouve d'importants troubles du sommeil. Il ne parlera jamais. S'il ne marche pas encore, Anthony se déplace sans cesse et mange en conséquence. Il est gros comme un pou, mais c'est parce qu'il n'arrête pas de bouger. Tu ne peux pas lui dire « reste là, il ne comprend pas », explique son père, le syndrome d'Angelman qui s'accompagne d'une constante bonne humeur et d'une surexcitabilité chez les personnes qui en sont atteintes. C'est le baume, il n'est pas compliqué. Il a le sourire dans la face, il veut juste se coller et un rien les excite. Des fois, il n'est plus contrôlable, il rit, lance Monsieur Côté. J'ai une photo sous les yeux de ce petit gamin, effectivement, au sourire absolument charmant, mais un sourire qui cache cette terrible maladie, ce syndrome d'Angelman. Thank you. Tiens, puisqu'on parle d'enfants, parlons de cette bambine d'Edmonton qui a troqué son mini-fauteuil roulant pour une nouvelle attelle. Elle s'appelle Evelyn Moore et elle peut se tenir debout grâce à cette attelle. Elle est albertaine, Evelyn Moore, et elle est paralysée des jambes à la suite d'un cancer. Et Dieu sait si ses parents se sont émus lorsqu'ils l'ont vue se déplacer pour la première fois à l'aide de cette attelle qui la soutient sur ses deux pieds. Dans les derniers jours, nous avons vu Evelyn marcher, soutient Kim Moore, la mère de la bambine d'un an et demi. Ce n'est pas comme deux pieds sur le sol, mais c'est déjà très très beau. Cette attelle d'acier et de mousse de polystyrène la supporte en position verticale et lui permet de garder ses jambes étendues. L'attelle permet à la petite Evelyn Moore de se tenir debout. La mère affirme que sa fille défie les pronostics des médecins, qui estimaient qu'elle ne pourrait se déplacer qu'en rampant, à l'aide de ses bras, jusqu'à environ 2 ans. Passé cet âge, les spécialistes prévoyaient que la petite pourrait avoir un fauteuil roulant adapté. Eh bien, les parents d'Evelyne ont toutefois entrepris de construire eux-mêmes un fauteuil roulant pour leur petite qui a commencé à l'utiliser à l'âge de 7 mois. Souvent, nous n'écoutons pas les experts, ce qui n'est probablement pas le meilleur conseil. Mais si nous établissons des objectifs, nous les atteignons. Renchérit la mère d'Edmonton, nous avons obtenu tout l'équipement dont nous avions besoin pour soutenir notre petite fille handicapée. Et ça nous a enlevé un grand stress, poursuit-elle. Paralysie, un implant cérébral connecté pour améliorer la communication des patients. C'est écrit par Laura Frémy. Le secteur de l'e-santé, l'e-santé comme le santé si vous préférez, donc trait d'union santé, s'intéresse de près ces derniers mois aux personnes gravement paralysées. Un implant cérébral connecté a été placé avec succès sur une patiente néerlandaise et pourrait remplacer les dispositifs oculaires existants. La France dénote en 2015 près de 12 millions de personnes handicapées selon les derniers chiffres de l'INSEE. Parmi ces handicaps, on retrouve notamment la paralysie qui s'accompagne chez certains patients d'une perte de l'usage de la parole. Soit leur faculté de communiquer avec autrui, en plus de leur capacité à interagir avec leur environnement. Toujours conscients, ces patients souffrent d'un sentiment d'enfermement. Cette situation, plus connue sous le nom de locked-in syndrome, a sensibilisé très très tôt les neurologues. Les médecins ont cherché à mettre en place des ersatz de communication avec leurs patients. La première alternative fut laborieuse, épeler l'alphabet pour le médecin, cligner des yeux à la lettre souhaitée pour le malade. Encore aujourd'hui, un petit appareil suit le mouvement oculaire des patients et leur permet de choisir des lettres sur un écran. Pourtant, la communication oculaire via ce dispositif est incertaine et discriminante pour les patients qui ont également perdu leur capacité à bouger les yeux, surtout si elle nécessite l'intervention d'une tierce personne. Pour ces patients, communiquer par la pensée est l'alternative de demain. Il y a quelques semaines, un implant cérébral a été installé sur une patiente néerlandaise de 58 ans. Cet exploit a été réalisé par l'équipe de Nick Ramsey du Brain Center de l'University Medical Center de Utrecht. Ces LEDs électrodes placées à la surface du cerveau, juste en dessous du crâne, enregistrent l'activité cérébrale, la transmettent à une petite puce installée sous la peau de la poitrine via un câble. La puce transmet ensuite un signal à une tablette externe qui peut le transformer en clic. Ensuite, des logiciels spécialisés prennent le relais pour convertir le clic selon les besoins. Épeler un mot, jouer à un jeu vidéo. L'avantage d'un tel système repose sur la rapidité et l'autonomie de la patiente qui peut communiquer sans le support d'une autre personne dans l'élaboration du processus de communication. De surcroît, les patients pourront communiquer à l'extérieur. Un implant innovant pour des personnes pour qui, d'ordinaire, la parole est d'or. Le secteur de l'e-santé pourra-t-elle permettre à ces malades de déplacer leurs chaises roulantes grâce à d'autres électrodes? C'est à suivre. Un peu de sport maintenant. Qui est Carole Lénion? Eh bien, Carole Lénion est une jeune pongiste, autrement dit une femme qui joue au ping-pong. Elle est atteinte de trisomie 21 et elle rafle absolument tous les prix sur son passage. Médaillée d'or aux Trisome Games et au premier championnat du monde pour trisomique de tennis de table. Alors, quels sont les projets de cette pongiste? Carole Lénion est désormais la sportive la plus célèbre de sa commune, une petite commune, je vais vous dire où elle est. Elle est à... on dit que c'est une Erquinghemoise. J'espère qu'ils vont nous dire un petit peu plus loin de quelle ville il s'agit. Elle est quadragénaire, donc elle a 40 ans. Elle est atteinte de trisomie 21. Elle joue au tennis de table depuis 36 ans. On se bat... Apparemment, et c'est ce qu'elle dit, et c'est ce que dit sa maman, on se bat pour être aux Jeux paralympiques de 2020. Grâce à Marc Truffaut, le président du sport adapté en France, c'est en pourparler, mais c'est compliqué d'introduire une nouvelle discipline aux Jeux. Il y a pourtant une vraie demande. Au Trisome Games, il y avait 1020 trisomiques en lice, représentant 33 pays au total. Alors, début décembre, Carole Lénion et sa famille se sont rendus à Paris et la pongiste s'est vue remettre un trophée, INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, au même titre que les champions olympiques et paralympiques. Un honneur, bien sûr, pour la pongiste. Alors, la prochaine étape pour Carole Lénion, c'est la qualification, mais qui est presque déjà en poche, pour le championnat du monde 2017 à Porto. Alors, la jeune femme est d'Erquinghem, c'est un petit village aux Pays-Bas. Et merci à Jean-Sébastien qui nous appuie toutes et tous quand nous sommes au micro de façon si efficace. Tiens, justement, le Comité paralympique canadien veut inviter les membres de la communauté sportive à poser leur candidature pour 4 postes dans le Comité de haute performance et des Jeux. Ce sont des postes de conseiller bénévole avec l'occasion d'influencer et de former l'avenir du mouvement paralympique au Canada. La date limite, c'est le 20 janvier 2017. Il suffit d'aller sur le site internet du Comité paralympique canadien. Voilà, c'était les premières paractualités de l'année 2017 en ce 4 janvier qui vous était présenté par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Merci beaucoup à toute mon équipe, Martin Forgue et Jean-Sébastien Laliberté. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h30.